Bonjour à toutes et à tous. Il est 17h et vous écoutez Sprechen, dialogue franco-allemande sur Radio Campus Paris 93.9.
À vous les studios, l'émission des ateliers radiophoniques de Radio Campus Paris.
Je suis Elisabeth Weimesser, votre présentatrice, et je vous amène avec moi dans cette émission spéciale Dialogue franco-allemande, réalisée par les élèves étudiantes de l'Université Sorbonne-Nouvelle, Paris et de Humboldt-Universität à Berlin. Nous sommes en direct sur le 93.9 FM et nous allons parler de différences dans la vie étudiante à Paris et à Berlin. Au programme aujourd'hui, pour en parler, nous écouterons Pete, notre chroniqueur, qui vous présentera les impressions générales de la situation des étudiantes à Berlin et à Paris. Après une pause musicale, nous finirons cette émission avec une conversation d'une étudiante parisienne et une étudiante berlinoise guidée par la journaliste Hannah Franke. C'est parti pour Sprechen, dialogue franco-allemande.
À vous les studios, les ateliers de Radio Campus Paris.
Bienvenue à notre émission spéciale sur les deux villes emblématiques, Berlin et Paris. Nous allons explorer les différences entre ces deux capitales européennes et discuter de la vie étudiante dans chacune d'elles. Commençons par Berlin, la capitale de l'Allemagne. Berlin est réputée pour sa scène artistique dynamique, sa vie nocturne animée et son histoire fascinante. Saviez-vous que Berlin est la plus grande ville d'Allemagne avec une population de plus de 3,5 millions d'habitants? De plus, Berlin est un pôle majeur de démarrage d'entreprises en Europe, avec un écosystème dynamique attirant de nombreux entrepreneurs et jeunes talents. En ce qui concerne la vie étudiante à Berlin, la ville offre un cadre vibrant et diversifié, avec une scène culturelle riche et de nombreuses opportunités pour les jeunes. Les loyers abordables et le coût de la vie relativement bas font de Berlin une destination attrayante pour les étudiants du monde entier. De plus, la ville compte plusieurs universités de renom, offrant une multitude de programmes académiques et des possibilités de recherche. Passons maintenant à Paris, la capitale de la France. Paris est célébré pour son art, sa mode, sa gastronomie, attirant des millions de touristes chaque année. D'autre part, Paris abrite certains des monuments les plus emblématiques au monde, tels que la Tour Eiffel, le Louvre et la cathédrale Notre-Dame. Saviez-vous que Paris est moins grand que Berlin, mais accueille avec approximativement 700 000 étudiants, 500 000 plus que Berlin? Et ce qui concerne la ville étudiante à Paris, la ville offre un environnement académique riche et stimulant, avec plusieurs universités de renommée mondiale et des institutions de recherche prestigieuses. Cependant, le coût de la vie à Paris peut être élevé, en particulier en ce qui concerne le logement et les sorties. Malgré cela, Paris offre une expérience culturelle incomparable, avec des musées de classe mondiale, des théâtres et des événements culturels tout au long de l'année. En conclusion, que vous choisissiez Berlin ou Paris pour vos études, vous aurez l'occasion de vivre une expérience unique et enrichissante.
On revient dans un instant, juste après une petite pause musicale.
Yeah.
On est de retour dans l'émission Sprechen, dialogue franco-allemand. On vient d'écouter Mein cher Tom, völlig losgelöst de Peter Schilling. Maintenant, je vais donner la parole à la journaliste Hanna Franke qui parlera avec une étudiante parisienne et une étudiante berlinoise de leur vie comme étudiante.
Bonjour, je m'appelle Hanna et nous sommes en compagnie de nos deux invités, Jade, étudiante de la Sorbonne Nouvelle de Paris, et Siri, étudiante de la Humboldt-Universität zu Berlin. Je vous laisse vous présenter brièvement.
Bonjour, je m'appelle Jade, j'ai 20 ans. J'ai intégré le cursus MEAF à la Sorbonne, du coup, en septembre dernier. Et concrètement, j'étudie l'allemand et la didactique.
Bonjour, je m'appelle Siri, j'ai 19 ans et j'étudie les sciences de l'information à la Humboldt-Université de Berlin depuis octobre 2021.
Que direz-vous de votre lieu de vie et de ce que ça vous coûte? Combien de temps mettez-vous pour rendre à votre université?
Moi, j'habite à Paris 11e, donc Paris intramuros, avec ma famille, donc parents, tout ça, mon petit frère. Je prends à peu près 20 minutes en métro pour me rendre à l'université et je travaille à côté de mes études. Voilà.
Okay, parfait. Et Siri?
J'habite aussi avec ma famille, donc avec mes parents et ma petite sœur. Nous habitons dans le centre-ville, à le quartier Mitte. Mais j'habite avec ma famille parce que les loyers à Berlin sont très élevés. On paye 500 euros au plus pour une chambre dans une colocation. Et beaucoup de mes amis qui viennent de Berlin habitent encore chez ses parents. Et je profite du lieu. Il me fait 20 minutes de vélo pour aller à l'université.
Ok, merci. Quelles sont les options que vous avez pour prendre quelque chose à manger et comment est organisé votre campus?
On a la possibilité pour les boursiers de prendre un repas au Crous. Donc pour les boursiers, c'est 1 euro et pour les non-boursiers, à peu près 3 euros, grand max. On a aussi la cafétéria et on peut aller prendre aussi des choses à l'extérieur et venir manger à l'intérieur de l'université.
Nous avons aussi plusieurs de cantines. Pour les étudiants, c'est pas cher d'y manger. Un repas avec un dessert coûte environ 3 euros. Mais la structure de notre campus est un peu bizarre. Nous avons un bâtiment principal, mais les différentes études ont leur propre bâtiment. Il n'y a pas beaucoup d'endroits pour rencontrer, sauf la bibliothèque ou les cantines.
Est-ce qu'il y a des offres pour les étudiants à votre université ou généralement dans votre ville?
À Paris, oui, on a, je trouve, énormément de dispositifs pour les jeunes. Après, à l'université, c'est assez simple, je trouve, de former des associations, de participer à la vie de l'université. Donc, ouais, je trouve que c'est assez facile et qu'il y a plein d'opportunités.
Ok, parfait. Et à Berlin?
Oui, la même à Berlin. Il y a beaucoup de cours supplémentaires, comme les cours de langue. C'est comme j'ai appris le français. Et techniquement, on peut faire tout le cours de toutes les études. Et il y a aussi des cours du sport. Et les offres culturelles sont moins chères pour les étudiants. Donc, je vais au musée souvent ou au cinéma. Oui,
oui, pareil, à Paris, la plupart des musées sont gratuits. Et ouais.
Et aussi, pour former les associations étudiants, je pense que c'est très facile à Humboldt Université. Il y a beaucoup d'engagement politiquement entre les étudiants.
Oui, on a nous aussi la possibilité avec le bureau des études transversales à Paris 3 de pouvoir suivre tous les cours de langue ou d'autres cours pour pouvoir voir un peu d'autres choses que notre cursus.
Et est-ce qu'il y a dans votre pays des options pour les personnes qui veulent travailler ou voyager avant de commencer leur étude supérieure? Avez-vous la possibilité de faire des stages ou des semestres entiers dans un autre pays?
Oui, on a cette possibilité, donc soit avec un programme Erasmus, donc c'est peut-être un semestre, ça dépend de la durée. On a à Paris 3 énormément d'étudiants qui viennent de différents pays, c'est super intéressant de leur parler, de voir d'où ils viennent. On a une grande échelle d'âge, donc on a plein de personnes qui viennent de plein de vécus différents. Il y en a souvent qui ont pris une année sabbatique ou une année de césure. Année de césure, ça te permet de garder ton statut étudiant, donc de garder les offres qu'il y a dans ta ville, de garder peut-être la bourse aussi pour certains étudiants. Donc c'est super intéressant et ça te permet de pouvoir vivre tes projets, de porter tes projets pendant un an.
En Allemagne, il y a plusieurs options pour passer une année avant les études. Par exemple, travailler dans un hôpital ou une disposition sociale pendant une FSJ, une année sociale bénévole aussi dans une autre pays. Et il y a aussi quelques personnes qui font une formation avant des études supérieures. Et pendant ces études, on peut passer un semestre dans une autre pays grâce au programme Erasmus ou aussi faire un stage dans une autre pays. Mais on peut aussi l'organiser soi-même. Oui.
Ok, merci. Et enfin, une question personnelle. Qu'est-ce que vous faites dans votre temps libre?
Moi, j'avais commencé la musique. Mais ça prend un peu de temps et comme je l'ai dit précédemment, je travaille à côté de mes études, donc ça me laisse un peu moins de temps, surtout en période partielle. Donc j'essaie de continuer à lire, de continuer à apprendre d'autres langues aussi, mais il reste plus de temps que ça au final quand on a un travail à côté de ses études.
Moi aussi, je travaille dans deux jobs à côté de mes études, mais je passe c'est beaucoup de temps avec mes amis et ma sœur. Nous allons au musée, au café. Et oui, Berlin a beaucoup des options.
Ok, merci beaucoup.
Merci.
Merci à vous.
C'est la fin de notre émission Sprechen, dialogue franco-allemande. Mon nom est Elisabeth Vames et je me remercie à Pete et Hannah Franke pour leur contribution. Aussi merci à notre réalisateur Maximilien Nagy. Bon soirée et à toutes et à tous sur Radio Campus Paris.
Bonjour à toutes et à tous. Il est 17h30 et vous écoutez Esprit Critique sur Radio Campus Paris 93.9 FM.
À vous les studios. L'émission des ateliers radiophoniques de Radio Campus Paris.
Je suis Maïke et je vous amène avec moi dans cette émission spéciale réalisée par les élèves de l'échange tandem. Nous allons parler de la romantisation de la dépression chez les jeunes. Pour en parler, nous accueillerons la sociologue Julia, le psychiatre Yaron et la maîtresse de conférence en culture numérique à Paris 3, Lou. C'est parti pour Esprit Critique.
À vous les studios, les ateliers de Radio Campus Paris.
Alors, c'est l'heure de l'interview. Bienvenue à notre journaliste Lucie Blanquet. Bonjour Lucie.
Bonjour Mike. Oui, en effet, aujourd'hui, nous parlerons de la dépression chez les jeunes en présence de Yaron, Lou et Yulia. D'ailleurs, Yulia, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les jeunes et la dépression aujourd'hui?
La dépression est un sujet dont on parle de plus en plus parmi les jeunes. Les statistiques, par exemple, de l'Organisation mondiale de la santé montrent que de plus en plus des maladies psychiques sont diagnostiquées dans la génération Z, par exemple la dépression. Et des problèmes tels que la crise climatique ou la pandémie COVID-19 et aussi les guerres semblent être de plus en plus présents dans la génération. Il y a des organisations telles que la Stiftung Deutsche Depressionshilfe, une organisation allemande, qui ne pense pas que cela signifie nécessairement que de plus en plus de gens souffrent effectivement de dépression. Mais la plus grande différence par rapport aux autres générations est qu'avant tout la La plus grande différence par rapport aux autres générations est avant tout la déstigmatisation du sujet. parce qu'aujourd'hui, il y a plus de gens qui parlent ouvertement de leurs problèmes et n'ont donc plus peur de demander de l'aide et, par conséquent, de recevoir plus souvent un véritable diagnostic de la dépression.
Allô, est-il vrai que la dépression est romantisée aujourd'hui ?
Effectivement, on retrouve des termes sur les réseaux sociaux tels que le Dostoevsky Core, une vie kafkaesque ou bien Virgin Suicide esthétique, tant de références qui vont du coup mêler la mélancolie, voire dans certains cas la dépression, à la jeunesse et à son quotidien. On semble remarquer, notamment sur les réseaux sociaux, donc, un regain de popularité de ces œuvres ou de ces artistes torturés, et notamment chez les plus jeunes générations. Ce qui est intéressant à relever, c'est que la génération Z, autrement dit la jeune génération actuelle, est fortement marquée par ce fléau dépressif, comme étayé donc par la sociologue Julia Schulte. Donc on peut alors être mené à se demander si cet intérêt morose sensibilise ou bien romantise la dépression.
Auriez-vous peut-être des références culturelles que la jeunesse utilise pour romantiser la dépression ?
Eh bien, sur TikTok, notamment, on observe une partie de la jeunesse qui s'identifie à des auteurs, on va dire, friands d'écriture un petit peu sombre et noire, tels que Dostoevsky ou Kafka, ou bien à leurs personnages. Je trouve ça intéressant de voir la quantité de vidéos sur TikTok qui vont utiliser le personnage de Gregor Samsa dans La Métamorphose de Kafka comme un outil de comparaison, voire de fascination. Il y a également le film Virgin Suicide de Sofia Coppola, qui est largement utilisé comme un esthétique à part. Et pour recontextualiser pour nos auditeurs, dans Virgin Suicide, on suit à travers un male gaze un petit peu biaisé de jolies jeunes filles et surtout on suit leur chemin vers le suicide.
Avant de poursuivre, on va écouter la BO du film Virgin Suicide, Playground Love de R. Alors, on vient d'écouter Playground Love de R et maintenant, on poursuit avec vous, Lucie.
Oui, en effet, Yaron, vous êtes psychiatre et vous avez sorti des ouvrages ces dernières années sur la dépression. Quels sont, selon vous, les dangers de la déstigmatisation de la dépression et les conséquences sur les jeunes ?
Je pense qu'il est juste et important que la dépression en général ne soit plus stigmatisée dans les jeunes générations. Toutefois, en tant que psychiatre, il est important pour moi que les termes utilisés pour dessiner les maladies ne deviennent pas des adjectifs pour nos problèmes et nos désagréments. Comme toute maladie psychique, les différentes formes de dépression ont des critères et des diagnostics précis. J'ai l'impression que la dépression est toujours directement associée à certains traits de caractère et à certaines émotions. On est le contraire qui est vrai. Par exemple, une dépression sévère s'accompagne souvent d'une absence totale d'émotion, la triste aussi. Et c'est pourquoi il est important pour moi d'informer précisément sur ces sujets. Informez-vous sur les symptômes en consultant des sources fiables. Et si vous pensez que vous ou un ami en souffre, contactez impérativement un médecin ou une ligne d'aide.
Julia, que pourrait-on faire pour contrer cette romantisation de la dépression ?
D'une manière générale, je dirais que la sensibilisation au sujet est très importante et bénéfique, mais doit se faire avec les bons moyens pour les raisons déjà évoquées par les psychiatriques. Dans nos exemples de romantisme dans les films et les livres, cela pourrait par exemple se présenter ainsi. Il serait important d'insérer des disclaimers indiquant que le livre ou le film suivant aborde ce sujet complexe. Le mieux serait ensuite d'indiquer des points de contact pour obtenir de l'aide. Et aussi dans les médias sociaux, les organisations de santé devraient également essayer d'être plus présentes et d'attirer l'attention sur la complexité et la gravité de la dépression. Mais évidemment, nous ne pouvons pas aborder ce sujet difficile de manière complète dans cette courte émission de 15 minutes. Donc c'est pourquoi, si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à appeler le numéro national d'écoute et de prévention de suicide. C'est, le numéro est 3114.
Alors, merci à Lou, Yaron, Julia et Lucie. C'est la fin de notre émission Esprit Critique. Merci aussi à Adrien et bonne soirée sur Radio Campus Paris.
Merci à vous.
Bonjour à toutes et à tous, il est 17h et vous écoutez l'émission Quoi de neuf sur Radio Campus Paris 93.9 FM.
À vous les studios. L'émission des ateliers radiophoniques de Radio Campus Paris.
Je suis Colette, votre présentatrice, et je vous invite à me suivre dans cette émission spéciale. Nous sommes en direct sur le 93.9 FM et nous allons aujourd'hui en apprendre un peu plus sur cette pratique qui est de plus en plus tendance, le yoga du rire. Un programme captivant nous attend et nous commencerons par accueillir Christian, professeur du yoga du rire, ainsi que Madame Chabernac, experte du rire. Restez avec nous pour quelques minutes de divertissement et de bonne humeur. C'est parti pour Quoi de neuf ?
À vous les studios, les ateliers de Radio Campus Paris.
Et tout de suite, c'est l'heure de l'interview. Bienvenue à notre journaliste Mula.
Merci Colette. Bonjour. Alors ma première question, c'est quoi le yoga du rire, Madame Chabernac ? Est-ce que vous pouvez expliquer ce concept pour tous ceux qui ne connaissent pas le yoga du rire ?
Bonjour, merci beaucoup. En général, le yoga du rire est une pratique qui consiste à combiner des exercices de rire et de respiration provenant du yoga traditionnel. Cette pratique a été développée en Inde par le docteur Madan Kataria en 1995 et depuis lors, elle est devenue populaire dans le monde entier.
D'accord, merci beaucoup. Monsieur Kras, vous donnez des cours de yoga du rire. Comment se passent vos cours ? Comment faire du yoga du rire ?
Alors, d'habitude, la session commence par des activités qui aident à la cohésion du groupe, histoire d'être déjà à l'aise. Ce sont par exemple des exercices de respiration, des chantonnements en groupe, ou encore des choses comme se taper dans les mains rythmiquement. Ce sont ces exercices-là qui aident à installer une ambiance conviviale et sans jugement parmi les participants. Puis, on passe à la partie rire. Au départ, il s'agit bien sûr d'un rire forcé, mais à force de le faire, le rire devient naturel et on en tire tous les bénéfices. Vraiment comme si on rigolait pour une raison. Mais bien sûr, le rire, il peut aussi être déclenché par des situations humoristiques improvisées. Naturellement, à part la partie rire et les exercices de respiration, il y a aussi d'autres éléments de yoga un peu plus traditionnels, comme la méditation, le stretching ou tout simplement de la relaxation qui peuvent survenir à la fin d'une séance.
D'accord, très intéressant. Merci beaucoup. Alors, on se penche vers l'aspect scientifique. Madame Chabernac, pourquoi faire du yoga du rire ? Quel est le bienfait du rire ?
Les avantages du yoga du rire sont nombreux. En riant, le corps produit des endorphines, les hormones du bonheur, ce qui aide à réduire le stress, l'anxiété et la douleur. Le yoga du rire favorise également la relaxation, l'amélioration de la santé cardiovasculaire, la stimulation du système immunitaire, l'augmentation de l'oxygénation du corps, renforce les muscles du visage et du ventre.
D'accord, très bien. Monsieur Kras, est-ce qu'on peut faire un court exercice maintenant ? Donnez-nous des instructions pour que les auditeurs et auditrices puissent suivre à la maison.
Certes, mais je vous préviens, le rire risque de devenir très, très contagieux. Alors, si on veut faire ça rapidement, j'ai un exercice à vous conseiller. Il faut simplement inspirer fort par le nez, tirer ses épaules vers le haut et puis lâcher en rigolant. Ouais, mais voilà. Vous faites ça jusqu'à ce que votre rire devienne un peu plus naturel. Et voilà, vous en tirerez tous les bénéfices.
Super, on revient dans un instant juste après la petite pause musicale. On vient d'écouter I Am a Believer de Smash Mouth. L'émission Quoi de Neuf continue sur Radio Campus Paris.
Est-ce qu'il y a une différence entre un rire simulé et un rire spontané, Madame Chabanac?
Pas du tout, excusez-moi. Pas du tout. Le corps fait pas la différence entre un rire forcé et un rire spontané.
D'accord. Alors je voudrais savoir, est-ce qu'il y a des inconvénients du yoga du rire?
En fait, y a des inconvénients qui peuvent être associés au yoga du rire. Notamment le risque de blessure si les exercices sont pratiqués de manière excessive ou incorrecte. En plus, certaines personnes peuvent se sentir mal à l'aise de rire de manière forcée ou de participer en groupe. Mais ça, c'est un autre sujet.
D'accord. Juste pour résumer et pour finir, qu'est-ce que vous pensez du yoga du rire ?
Enfin, le yoga du rire est une pratique bénéfique pour la santé mentale et physique, mais il est important de le pratiquer de manière modérée et adaptée à ses besoins et capacités.
D'accord, merci beaucoup.
Merci à toutes et à tous. C'est la fin de notre émission Quoi de Neuf. Merci à Renate Müller, Christian Krass, Émilie Charbonneau et Samson. Nous espérons que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Restez à l'écoute pour de nouveaux épisodes. Bonne soirée à toutes et à tous sur Radio Campus Paris.